Coupe d'Europe de football, JO de Rio, Tour de France. Cette fin de saison est marquée par de grands rendez-vous sportifs et ils sont philosophes, scientifiques, historiens, politologues et tous portent un regard et une réflexion particulière sur le sport. Au-delà des nombreuses émotions qu'il procure, eh bien c'est le sport en tant qu'objet scientifique qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise cette activité humaine singulière? On en parle avec mes invités, vos messages et vos questions dès maintenant sur le site de la Tête au Carré. L'après-Brexit à la une de la science aujourd'hui, après les fluctuations de l'opinion britannique sur le retrait du Royaume-Uni de l'Europe, eh bien, on se pose la question de l'esprit critique. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, et pour y répondre, nous recevons un sociologue spécialiste de l'intelligence des foules. L'esprit critique laisse-t-il sa place à l'impulsivité dans une société de plus en plus fulgurante? Réponse dans un instant avec Gérald Bronner.
Et Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au Carré préparée par Camille Jusot.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et des regards croisés sur le sport aujourd'hui. Je salue mes invités avec moi en studio, l'historien Georges Vigarello et le réalisateur Benjamin Pichery. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et puis en duplex de France Bleu, Pays Basque à Bayonne, le biologiste Joël de Renais. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin Pichery, est-ce que le sport subit une importante remise en question aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il subit la même remise en question que l'idée de progrès est mise en question aujourd'hui. Et sans outrepasser le terrain ou aller trop vite sur le terrain de Georges, on pourrait parler que le sport s'inscrit dans la postmodernité et qu'il est peut-être la signification la plus précise et la plus lisible, et qu'il offre une grille de lecture extraordinaire sur la sociologie contemporaine aujourd'hui. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sport n'est pas une activité singulière hors sol, et je crois que le sport s'invite très facilement à la table des anthropologues, à la table des historiens, à la table des philosophes, des scientifiques.
Georges Vigarello, à quel moment justement est né le sport dans l'histoire moderne? Est-ce qu'il y a une date de naissance officielle au fond?
Oui, on peut dire ça. On peut dire aussi que le sport a toujours existé, c'est-à-dire que la compétition, le jeu, l'affrontement physique, en fait ça traverse le temps. Ça on a tendance à l'oublier. Ouais. Quelle est l'originalité du sport en revanche, celui que nous connaissons? C'est une originalité, à mon avis, extrêmement forte. C'est d'une part le fait que ça devient une pratique démocratique, tout le monde est ouvert, alors que jusque-là, il y avait des profondes distinctions, le noble ne pratique pas avec le bourgeois, qui ne pratique pas avec l'homme du peuple, donc c'est une ouverture démocratique. Deuxièmement, c'est l'installation de règlements qui concernent un ensemble extrêmement vaste, alors qu'auparavant, les règlements concernaient des vallées, concernaient des petites villes, etc. Ça, c'est un deuxième point très fort. Et troisièmement, ça permet des rencontres qui sont élargies internationales avec la possibilité de partir de la base vers le sommet.
Joël de Renais, est-ce que l'homme est né pour faire du sport?
Il est peut-être pas né pour faire du sport, mais il en fait beaucoup et il est depuis toujours, depuis très longtemps. Moi, je pratique le surf et le ski et le surf a été pratiqué par les Hawaïens. Cook le décrit dans ses livres en 1756 quand il a visité Hawaï. On sélectionnait les rois hawaïens en fonction de ceux qui étaient capables de surfer les plus grosses vagues. Mais les autres sports, les Grecs l'ont montré, sont faits partout. Moi, ce qui me fascine dans les sports de glisse, que je pratique beaucoup, c'est-à-dire le surf et le ski notamment, et le kite, ce sont les matériaux nouveaux et c'est les avancées scientifiques qui font que sans ces matériaux et sans la meilleure connaissance biologique de notre corps, de notre alimentation et des préventions, on pourrait pas faire les sports qu'on fait et surfer dans des conditions pareilles.
La biologie et la technologie, on va beaucoup en parler également au cours de ce dossier. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour cette réflexion sur le sport avec les messages des auditeurs sur notre adresse latetecarre@radiofrance.com. Le Brexit à la une de la science aujourd'hui pour parler de l'esprit critique. Une semaine après le référendum qui scellait donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, beaucoup de citoyens anglais disent regretter leur vote. Nous avons voulu interroger la sociologie justement pour comprendre ce qui se joue derrière ces fluctuations de l'opinion. Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, membre de l'Institut universitaire de France. Est-ce que le Brexit dit quelque chose de nouveau aujourd'hui sur la valeur de la démocratie?
Bah, écoutez, il dit quelque chose de nouveau et tout à la fois très ancien. Parce que c'est un serpent de mer de la démocratie que de se poser de la question de savoir s'il existe une sagesse des foules ou si au contraire les foules sont irrationnelles. Vous savez que depuis longtemps, par exemple, Platon dans La République ne croyait pas tellement que le peuple pouvait être philosophe. Heureusement, un certain nombre d'autres penseurs ont essayé de défaire cette impression. Et aujourd'hui, ce qui est un peu plus à la mode, notamment dans la philosophie politique du XXe siècle, c'est de considérer au contraire qu'il y a une sagesse des foules et que la délibération collective aboutit la plupart du temps à des décisions qui sont supérieur, disons, au point de vue individuel. Alors évidemment, les résultats du Brexit, selon que l'on soit favorable au maintien ou au retrait, c'est pas du Royaume-Uni dans l'UE, va avoir des analyses un peu différentes.
Est-ce que, excusez-moi, par rapport aux politiques, c'est pas aussi une façon quand même de se décharger de décisions difficiles à prendre aussi et de s'en référer à la démocratie au peuple?
En l'occurrence, pour le cas anglais, c'est très clair. Il peut y avoir des stratégies d'utilisation du référendum, ça c'est sûr. Mais en même temps, le recours au peuple est tout de même totalement légitime en politique. Et d'ailleurs, c'est une des grandes interrogations des sciences politiques d'aujourd'hui. C'est comment rénover en quelque sorte ce qu'on considère comme être une usure des démocraties par l'ensemble des procédures de démocratie collaborative, on dit parfois participative, délibérative, c'est pas tout à fait la même chose, mais la question qu'on peut se poser, c'est, en termes d'ingénierie sociale, est-ce que ce type de recours à ce type de procédure aboutit toujours à une décision qui est conforme à l'intérêt général? Voilà, c'est ça la question centrale.
Comment est-ce que vous expliquez ce regret que certains citoyens font connaître comme un retournement de masse?
Eh bien, c'est bien là le problème. C'est une des curiosités et un des intérêts d'ailleurs que représente ce vote du Brexit, c'est qu'en effet, les individus semblent déclarer aujourd'hui, ou certains d'entre eux, qu'ils ne voteraient plus de la même façon. Donc, on peut suspecter une forme d'irrationalité du vote. Alors, cette irrationalité, elle peut s'expliquer de bien des façons, si tant est qu'on admet qu'il y a eu un vote qui est en partie irrationnel, puisqu'il est regretté. Eh bien, on a vu dans la campagne du Brexit très clairement qu'il y a eu toutes sortes d'arguments. On ne peut pas dire qu'il y a eu un débat. Certains vont dire que ce n'était pas un débat démocratique, regrettant la conclusion du vote. Ça, je pense que c'est une absurdité. Chacun a pu développer ses meilleurs arguments, seulement certains arguments ont été plus entendus que d'autres. Et ce qui est tout à fait frappant dans les débats publics, c'est que la plupart du temps, ce sont les arguments du risque, du coût et de la peur qui l'emportent sur les arguments du bénéfice qu'aurait telle ou telle décision. Et il y a plein d'explications à donner à cela, mais une des explications qui est quand même intéressante, c'est de se souvenir que notre cerveau a plus d'attention en général pour les coûts que pour les bénéfices. Il y a même certains expérimentateurs, notamment Daniel Kahneman, qui a pris Nobel d'économie en 2002, qui a pu montrer que pour compenser 1 euro de coût, il fallait 2,5 euros de bénéfices. Donc je dirais que les idéologies de la peur en général, dans les débats référendaires, elles peuvent compter sur un 12e homme, qui est celui du fonctionnement ordinaire de notre cerveau.
Et donc ça a été absolument essentiel justement dans les résultats aussi de ce référendum.
C'est difficile de l'évaluer, mais quand on regarde le nombre d'arguments et la nature des arguments, chacun a pu bien voir que ce qui était craint dans un camp et dans l'autre d'ailleurs, c'était les coûts éventuels économiques du Brexit ou du fait de rester au contraire dans l'UE. Et d'un autre côté, on l'a vu aussi, le thème de l'immigration a emporté le gros morceau en quelque sorte, alors qu'il n'était pas forcément central dans la question qui était posée. Donc oui, je pense que ça peut être, c'est certainement un éclairage seulement partiel, pas exhaustif, mais c'est un éclairage. Un autre élément qui est bien connu et qui relève pas cette fois du fonctionnement du cerveau, mais bel et bien du fonctionnement d'un cerveau socialisé, c'est-à-dire qui réfléchit en groupe, c'est qu'il existe des effets de polarisation qui ont été évalués expérimentalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un certain nombre de cas, dans certaines situations, les groupes aboutissent à des décisions collectives qui sont plus radicales que la moyenne des points de vue individuels. N'est-ce pas ? Donc on se polarise, on se radicalise ensemble, et c'est vrai que dans un certain nombre de débats publics, c'est ce que l'on observe.
Vous avez parlé des arguments confrontés durant les débats. On est souvent face à des débats comme ça, d'experts, sans qu'on puisse trancher personnellement. Comment exercer son choix dans ce genre de cas ?
C'est redoutable, parce qu'effectivement, par exemple, sur les conséquences économiques du Brexit, il y a eu des arguments favorables ou défavorables, et nous, citoyens, je me mets dans le tas, vous voyez, nous ne sommes pas économistes, c'est extrêmement difficile d'évaluer la pertinence de ces arguments. Donc, il règne du coup une impression de confusion des arguments, et on sait bien, là encore, que le cerveau réagit toujours avec ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons aller chercher les arguments qui vont dans le sens de nos représentations préalables, de sorte que ces débats ne sont certainement pas inutiles, notamment pour les indécis, qui eux peuvent juger, mais à partir du moment où vous avez déjà un point de vue très établi, favorable ou défavorable au Brexit, vous allez trouver plus convaincant les arguments techniques qui vont dans le sens de vos compulsions idéologiques, quelles qu'elles soient.
Gérald Brunner, les aveux de mensonge des hommes politiques, je pense évidemment au leader du parti souverainiste UKIP, Nigel Farage, qu'est-ce que ça va dire également du lien entre les citoyens et leurs représentants ?
Bah écoutez, ça va certainement pas améliorer ce lien, ça va creuser sans doute une situation qui est quand même une situation classique en démocratie, qui est celle de la méfiance du pouvoir, hein. Rosan Vallon a écrit un beau livre qui s'appelle La contre-démocratie sur cette question, mais on sait quand même que la défiance vis-à-vis du personnel politique, ça c'est vrai en particulier en France, atteint des sommets véritablement historiques, hein. On est, quels que soient les sondages, à peu près à 70 ou 80% de la population qui pense que les hommes politiques sont globalement corrompus. Ce qui est terrible, n'est-ce pas, puisque nos systèmes démocratiques sont fondés sur la confiance. Et donc, d'où la question, effectivement, de la démocratie délibérative collaborative, c'est-à-dire intégrer plus en amont des décisions politiques le point de vue des citoyens. Mais encore faut-il, à mon avis, penser, et là c'est peut-être la tâche des sociologues ou des politistes, penser en amont une ingénierie de ces décisions collectives pour s'assurer que les conditions sont bien réunies pour que la foule décidante n'aboutisse pas systématiquement à des points de vue, disons, qui s'écartent très notablement de l'intérêt général. Hein, vous savez que quand on demande, par exemple, à une population locale si elle veut, par exemple, une centrale de traitement des déchets ou bien un parc d'éolien, par exemple, hein, ouais. Eh bien, la plupart du temps, la réponse, c'est non. Not in my backyard, quoi, vous voyez. Donc, en fragmentant l'intérêt général par des intérêts particuliers, en ayant recours à la démocratie locale, on ne sert pas toujours, disons, les avancées progressistes d'un territoire.
Est-ce qu'Internet participe à ce que les fluctuations de l'opinion publique soient de plus en plus rapides ?
Ah ben ça c'est certain. Hein, on a pu mesurer, enfin j'ai pu mesurer par exemple sur la question des théories du complot qui m'intéressent beaucoup par ailleurs. Eh bien auparavant, avant Internet, il fallait attendre une trentaine de jours pour voir apparaître des premières théories alternatives à ce que les complotistes appellent la vérité officielle, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est zéro jour. C'est-à-dire le jour même d'un attentat par exemple, vous avez déjà toute une série d'arguments complotistes qui apparaissent sur la toile. Donc cette réduction du temps de diffusion, je dirais, de la crédulité est effectivement un autre aspect très inquiétant de cette dérégulation du marché de l'information.
Merci beaucoup Gérald Brunner pour votre décryptage donc sur ces fluctuations de l'opinion autour du Brexit. Merci à vous.
Merci.
Bonne journée. Au revoir Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, bien c'est désormais prouvé, les méduses font partie des animaux les plus doués pour la nage. Trois chercheurs américains se sont penchés sur l'espèce la plus commune, Aurelia aurita, c'est son nom, afin d'étudier sa capacité à parcourir des kilomètres sans se fatiguer. Proportionnellement à sa taille, cette méduse consomme moins d'énergie que le dauphin ou le requin pour se déplacer, et ce grâce à ses mouvements très particuliers. Lorsqu'elle bouge ses muscles, la méduse crée en effet un mécanisme de succion et de poussée très puissant. En créant des zones de haute et basse pression, l'animal est propulsé sans consommer trop d'énergie, une découverte qui pourrait inspirer les ingénieurs. Une nouvelle espèce de bactérie vivant dans notre peau vient d'être découverte au CHU de Nantes. Cette espèce identifiée par le professeur Corvec est très proche de Propionibacter acnes, responsable de l'acné et capable de générer des enzymes qui dégradent la peau. Eh bien, cette nouvelle bactérie nommée Propionibacter namensans, en hommage à la ville de Nantes où elle a été découverte et qui se dit namentum en latin, eh bien, peu ou pas dangereuse quand elle demeure sur la peau, ces petites bestioles peuvent néanmoins infecter les os quand elles se retrouvent dans l'organisme suite à une plaie ou à une opération chirurgicale. Donc bienvenue à cette bactérie nantaise. Et puis un vortex géant découvert à la surface de Neptune. Les scientifiques suspectaient depuis 2015 la présence d'un tel phénomène météorologique autour de Neptune, mais c'est le télescope Hubble qui en a apporté la confirmation le mois dernier. Les vortex, ce sont des sortes de montagnes gazeuses qui émettent des nuages clairs, formant ainsi une tache à la surface de la planète. Les clichés pris par Hubble vont permettre d'étudier de plus près ce vortex et peut-être d'en tirer des conclusions sur la formation et la disparition de ces phénomènes encore mal connus. Notez d'ailleurs que le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 26 ans, eh bien, vient de voir sa durée de vie prolongée de 5 ans supplémentaires. Allez, l'esprit critique et le sport dans le dossier dans un instant.
de s'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
Help myself, Gaëtan Roussel.
La tête carrée sur France Inter.
Et le sport, cette saison, au cœur de notre dossier cet après-midi dans la tête au carré, alors que plusieurs événements se déroulent en ce début d'été, l'occasion de faire appel à l'esprit critique de plusieurs personnalités pour réfléchir à la pratique sportive. Et pour en parler, je suis avec Benjamin Pichery, vous êtes réalisateur au sein du pôle image de l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et vous avez réalisé une série de DVD dans le cadre de Regards Croisés, qui sont nés d'ailleurs dans un livre paru aux éditions du Pommier. À vos côtés, Georges Vigarello, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Vous avez publié l'année dernière Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps aux éditions du Seuil. Et puis en duplex de Bayonne, Joël Deronet, vous êtes conseiller scientifique auprès du président d'Univers Science. Vous êtes pionnier du surf en France. Vous avez été champion de France en 1961. On peut quand même le rappeler, Joël Deronet. Est-ce que la mer est bonne en ce moment pour pratiquer le surf au Pays Basque?
J'ai fait 2 heures de surf ce matin, bon. Entre 10h et midi, on était une vingtaine de copains dans l'eau, les vagues faisaient 1m70 de haut à peu près, le vent venait de la terre, donc l'eau était lisse, c'était parfait.
Bon, bah écoutez, vous voilà heureux, ça s'entend dans votre voix. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur notre adresse, latêteaucarré@radiofrance.com et donc sur le compte Twitter et Facebook de l'émission. Benjamin Pichery, d'abord cette collection, Regards Croisés, elle vit maintenant depuis plusieurs années, hein. C'est la réflexion et l'esprit critique que vous avez voulu interroger en faisant appel donc à de nombreuses disciplines. Alors, faire ce travail au sein même de l'INSEP, c'est-à-dire ce travail critique autour du sport, c'est assez original. Vous avez eu toutes les libertés pour pouvoir justement laisser passer les messages de vos invités?
Tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'INSEP m'a donné carte blanche depuis plusieurs années, effectivement. Plusieurs directeurs s'y sont succédés et tous ont accompagné et encouragé cette démarche-là. Et je trouve que s'il faut noter cette question-là, parce que, pour une fois, une institution d'État est capable d'autocritique.
Ouais.
L'INSEP est quand même l'institut qui produit la moitié des médaillés olympiques à chaque Olympiade. Et donc, c'est là que la fabrique du sportif se fait. Et toutes les questions qui intéressent le sport aujourd'hui et qui sont en débat de société ne doivent pas être occultées. Et l'INSEP a ce courage-là. Mmh. D'expertiser, puisque c'est son nouveau vocable, c'est Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. L'INSEP a donc cette capacité d'expertiser aussi sur le champ intellectuel et scientifique toutes les questions qui ont attrait au sport. Donc je pense qu'on peut donner un coup de chapeau à l'Institut plus qu'à moi de m'avoir donné la liberté de faire ce travail dont vous parlez là aujourd'hui.
Georges Vigarello, il y a un besoin de réflexion autour du sport aujourd'hui. On est vraiment dans une période charnière et là c'est vraiment l'historien que je fais appel. Hein.
Vous voyez, tout à l'heure, Benjamin Pichery disait que le sport est le reflet de notre société. Je pense qu'effectivement, c'est le cas. Mais en plus, il se donne aussi comme modèle de la société. Donc, lorsqu'il y a dysfonctionnement, le problème est quand même relativement important. Et on connaît tous les dysfonctionnements. On connaît tous aussi la valeur du modèle. Ça, il faut quand même pas l'oublier. C'est très important. C'est la façon dont les foules arrivent à entrer dans ce type de spectacle, se passionner. On peut pas oublier ça. Ça concerne un nombre de personnes extraordinairement important, élevé. Et en même temps, c'est vrai que bon, le phénomène comporte des grippages. Le phénomène comporte des contradictions. Comporte des faiblesses, il comporte parfois des phénomènes, des attitudes graves,
oui.
Qui doivent être prises en compte et qui doivent entraîner un centre de réflexion, par exemple, me semble-t-il, pour citer simplement ce fait-là, sur le dopage. Je trouve que là, il y a une responsabilité très forte qui tient à la santé publique et donc qui tient à la responsabilité de l'État.
Joël de René, est-ce que justement cette réflexion autour du sport, vous la voyez aussi dans toute son évolution ?
Oui, ce qui me passionne, moi, c'est le dépassement, c'est-à-dire aller au-delà de ses limites, pousser ses limites soi-même pour, non pas prouver quelque chose aux autres, mais se prouver à soi-même sa capacité à se tenir en forme, à faire de l'exercice, à se préparer, à s'entraîner. L'entraînement est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de s'adapter à des conditions changeantes. Je le vois dans les sports de glisse que je pratique, évidemment, vous le savez, le surf, vous l'avez dit, mais aussi le ski, un peu extrême d'ailleurs. Donc tout ceci nécessite un matériel extrêmement adapté. On appelle le matos dans notre genre, dans notre jargon. Le matos, une planche, c'est adapté à vous, à soi, c'est fait souvent sur mesure. Les skis modernes sont incroyables. On fait des virages avec ces skis-là qu'on ne faisait pas. Et on se fatigue beaucoup moins avec les skis paraboliques. Donc c'est cette évolution, le dépassement de soi, le dépassement par des outils qui n'existaient pas, des matériaux nouveaux, comme le Kevlar, le Dacron, le polyuréthane, le polyester, les matériaux composites, qui permettent tous ces sports de glisse sans lesquels ils n'existeraient pas. Et puis aussi, ce sont les progrès en biologie qui permettent, sur le plan de sa santé, de se surveiller, de faire de la prévention, de comprendre ce qui peut se passer si ça va mal, de faire en sorte que son alimentation soit adaptée. Donc voilà, c'est à la fois le dépassement de soi, mais en même temps l'adaptation qui me fascine dans le sport.
Benjamin Pichery, Joël de René décrit donc les évolutions technologiques hein, dans différentes disciplines. Heureusement d'ailleurs, on pourrait dire non, parce qu'on est quand même aussi à un moment oui. où les limites des performances sportives arrivent à un taquet quand même. Hein.
C'est juste, la plupart des records du monde, dans on va dire les 10 ans passés,
ouais.
Peuvent être attribués aussi, et peut-être même en partie,
au matériel.
Au matériel.
Ouais.
L'exemple le plus frappant, mais qui a vu une petite modification, c'est les combinaisons de natation
ouais.
qui ont fait apparaître des records du monde de façon très très rapide et conséquemment justement au port de ces combinaisons, on les a enlevées, on est revenu à des temps beaucoup plus naturels, j'ai envie de dire. Si tant est que le mot naturel en matière de sport
ouais.
soit assez délicat à manier, parce que le sport c'est de l'artifice, c'est pas de la nature. La nature en tant que telle n'existe pas vraiment. Hein. Chez l'homme, on a créé que de l'artifice. Mais pour prolonger ce que disait Joël à l'instant, qui parlait du matériel, je pense qu'il faut parler aussi du corps sportif. Le corps sportif est un corps ouvert aux transformations aujourd'hui.
Mmh.
Est un corps qui permet une médication, qui permet une prothèse aussi. Je crois qu'on peut donner ces cas que tout le monde connaît du corps machine de Pistorius qui arrive sur le stade aux Jeux de Londres et qui court donc avec les valides, avec deux prothèses carbone aux jambes. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau corps qui est en train de se dessiner et ce corps-là, peut-être, va être le corps de demain. Le sport étant un laboratoire d'expérimentation, peut-être, de l'homme de demain.
Et c'est vrai que de nouvelles questions posées justement par ces prothèses, c'était le cas en 2007. Alors avant, évidemment, on oublie l'affaire Pistorius, on parle vraiment là, de la question de l'homme augmenté. On écoute cette archive.
Sa raison de vivre, c'est le sprint. Amputé des deux jambes, Oscar Pistorius court vite, très vite. Ce Sud-Africain âgé de 20 ans est né sans tibia ni péroné. Ses prothèses en carbone ont été spécialement conçues pour lui et le propulsent au plus haut niveau. Ce week-end, il va courir pour la première fois chez les Valides avec les meilleurs du monde.
Je suis vraiment impatient. C'est ma première course internationale avec les Valides. Donc évidemment, je suis très nerveux. J'ai des papillons dans le ventre, mais j'ai travaillé pour cela depuis 3 saisons et demie.
Problème, la Fédération internationale d'athlétisme s'interroge et veut savoir si ces deux prothèses transforment son handicap en atout. Ici, aux Jeux paralympiques d'Athènes, il part en retard, mais rattrape tout le monde et décroche la médaille d'or. Ses performances s'améliorent sans cesse, il est à 3 secondes de certains records d'athlètes valides. Mais chez les sportifs, les performances de Pistorius divisent.
Si un jour, avec une prothèse, on va plus vite que sans avoir de prothèse, forcément ça posera problème au sens réglementaire, même si d'un point de vue déontologique, on pourrait se dire qu'il faut laisser courir.
Voilà, c'est Stéphane Diagana qui s'exprime à la fin justement de cet extrait du journal de France de Georges Garello. Donc là, on a basculé dans autre chose quand même. Hein.
Oui, moi je pense que depuis un certain nombre d'années, et l'intervention de Joël Doronné le montrait tout à l'heure, depuis un certain nombre d'années, on est à la fois dans une accentuation de la culture du corps et en même temps dans une diversification de la culture du corps, ce qu'on a tendance à oublier. Autrement dit, l'image traditionnelle, c'est l'image d'une performance, c'est l'image de la réussite d'un exploit, c'est l'image de l'utilisation d'un outil pour le porter au plus loin, mais ce qui s'est quand même diversifié, c'est tout un travail sur des pratiques différentes. Et en particulier des sensibilités différentes.
C'est-à-dire,
ben tout le phénomène de la glisse, oui. Vous voyez, c'est quoi? C'est pas seulement le fait de réaliser quelque chose pour aller au mieux, c'est le fait de réaliser quelque chose en s'éprouvant soi-même.
C'est ça, avec de nouvelles sensations.
De travailler sur ces sensations qui sont en rapport à la fois avec l'espace et avec ce que le corps fait et perçoit. Parce que le faire, c'est aussi un travail de perception. Donc, ce qui me paraît vraiment passionnant dans le phénomène sportif depuis un certain nombre d'années, c'est que le plaisir est lié, bien entendu, à l'affrontement, il y a la réussite, etc. Ne le nions pas, c'est une évidence. Mais le plaisir est lié aussi à la diversification de la façon dont le corps peut réaliser, s'évaluer et finalement entrer dans des formes de sensibilité extraordinairement variées. Ouais. Ça, on l'oublie. Et j'ajouterai un mot, c'est que dans ces sensibilités, et c'est ce qui fait la spécificité de la culture sportive, il n'y a pas forcément de rapport au langage. Vous trouvez des sensations dont vous n'avez pas forcément les mots. Et c'est cela qui fait la particularité, et c'est cela qui fait le plaisir.
Sur ces nouveaux modèles aussi, aujourd'hui?
Mais oui, sur ces nouveaux modèles. Si vous voulez, si on parle, par exemple, des nouveaux instruments, des surfs, des skates, etc., il y a un travail d'effervescence extraordinaire sur la question du sensible. C'était d'ailleurs sur ce travail-là que moi je m'étais plongé quand j'avais écrit ce livre sur le sentiment de soi. Et je l'ai repris dans un chapitre sur aujourd'hui, en montrant qu'il y a un nouveau plaisir du ludique à partir de ce type de pratique.
Joël Doronné, ça doit parler à l'homme de glisse que vous êtes, ce que vous entendez là.
Absolument, mais Deleuze l'avait bien dit, Georges. Vous vous souvenez quand Deleuze parlait du surf?
Mais je prétends pas être original, pas du tout. Je dis ce qui est intéressant, c'est de montrer ce qui est nouveau.
Voilà, non, mais absolument, vous avez raison. Ce qui est nouveau avec tous ces outils qu'on a, vous parlez du skate, du kite, de la planche de surf ou de la planche de windsurf, c'est le plaisir que ça confère d'être en harmonie et en collaboration avec la nature. Si vous voulez, pour moi, une vague, c'est pas un ennemi qui risque de me submerger et de me faire rester dessous 20 secondes. La vague, c'est une amie, elle vient d'un écosystème, elle a été fabriquée par une tempête au nord de l'Atlantique, elle arrive sur le spot que je connais, et là, à ce moment-là, joue pour moi la philosophie du surf que je catégorise en déterminisme et la liberté. Le déterminisme, c'est la vague qui est déterminée par un phénomène que je ne peux pas contrôler, elle arrive sur le spot que je connais, je sais où elle va briser, et là, ma liberté, c'est de la prendre comme je veux, c'est-à-dire soit de faire des quantités de courbes dessus, ou bien d'essayer de rentrer dans le tube qui est le top du surf. Donc le déterminisme et la liberté, c'est la philosophie du surf. À quoi on s'ajoute le plaisir? Et on m'a souvent posé la question de, est-ce que c'est un sport individuel ou collectif? C'est un peu les deux. C'est individuel, bien sûr, pour le plaisir qu'on en tire et les figures qu'on fait, mais c'est collectif parce que tous les potes, tous les copains, on se connaît, c'est une espèce de famille. Quand on revient aux larmes, moi ce matin ça m'est arrivé, j'ai pris 3 ou 4 belles vagues sur les 20 que j'ai pris, et les copains vous félicitent, il y a un pouce vers le haut en disant « t'as pris une belle vague, bravo, je t'ai vu, tu étais dans le spot », et nous on le fait pour d'autres. Donc il y a une espèce de communauté de plaisir partagé, qui fait que ces sports de glisse sont absolument uniques par rapport aux sports de compétition. On est enfermé entre des lignes comme le tennis, on est enfermé dans des lignes comme le rugby ou le football, que je ne critique pas du tout, mais on est enfermé dans un espace, on déteste l'adversaire, il faut lui envoyer au tennis la balle, pire, presque sur lui. Nous, on est en communion avec l'écosystème.
Voilà, vous défendez vos sports de glisse que vous aimez tant, Joël Doronné, on a bien compris le message. Allez, on vous retrouve tous dans un instant pour poursuivre cette réflexion autour de la pratique sportive. Vos messages arrivent sur la tête au carré à radiofrance.com.
Autant m'emporte le vent, ça y est, je suis morte, et pourtant, battement du style du firmament.
poussière que des géants. Moutons du ciel avale content et le temps file avec consent. Car rien de nous n'est important. Car rien de nous n'est important. Qu'on est debout, on prend des coups. Des photos, peut-être une chanson. Car rien de nous n'est important. Car rien de nous n'est important. Qu'on est debout, on prend des coups. Pourrait-on de temps en temps, qu'on est vivant, être heureux même. Le vent, notre amour défiera le temps. On était juste de passage et que la vie tourne la page. Car rien de nous n'est important. Car rien de nous n'est important.
Rien de nous est la voix de Clarica dans notre tête au carré sur le regard porté vers le sport et vers les pratiques sportives avec mes invités Benjamin Pichery de l'INSEP, Georges Vigarello et Joël de René. Vos messages sur la tête au carré à radiofrance.com. Il y a Jean-Paul qui nous demande s'il existe encore aujourd'hui un esprit olympique. Qui veut répondre? Georges Vigarello.
Ouais, c'est très difficile de répondre parce qu'en fait, ces phénomènes-là sont liés à l'histoire. Vous voyez, l'esprit olympique, effectivement, se définit de façon relativement forte au début, à la fin du 19e et au début du 20e. Il a quand même largement flotté, il a changé. Dans l'esprit olympique, il y avait l'interdiction au début du financement. Aujourd'hui, le financement est parfaitement ouvert. Il y avait une activité qui était strictement réservée aux hommes. Aujourd'hui, c'est une évidence que c'est grotesque de dire que c'est réservé aux hommes. Donc, ça a beaucoup bougé. En revanche, moi, ce qui me paraît très important, en dehors même de l'esprit olympique, c'est le fait que le sport se donne toujours pour un modèle. Vous voyez, c'est perçu comme quelque chose qui, une activité qui doit observer une forme de respect, une forme de morale. Et évidemment, lorsque ces respects et cette morale ne sont pas là, c'est l'effondrement. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui.
Ouais. Viron demande pourquoi les JO coûtent de plus en plus cher et sont de plus en plus destructeurs de l'environnement. Alors ça, dans les valeurs morales aussi.
Par exemple, évidemment, évidemment. Mais en même temps, ils sont attendus, ils sont appelés. Il y a un public qui regarde, qui se passionne. Donc c'est extrêmement compliqué comme problème. Et je pense qu'on ne peut pas nier le fait que le public se passionne. On peut pas considérer que les gens sont grotesques parce qu'ils se passionnent pour le sport.
Ouais. Benjamin Pichery.
Oui, tout à fait. Je rejoins Georges dans cette idée. Tout l'engouement des stades, c'est une chose qu'il faut regarder comme une réalité. Et avec justement Paul Virilio, le philosophe urbaniste qu'on a invité dans la collection, on parle du communisme des affects. Mais il le dit avec une grande sympathie, c'est-à-dire que quand il y a 3 milliards d'individus qui regardent la même chose et qui sont tendus
à ce résultat aux cinq dernières minutes d'un match, c'est quand même considérable comme émotion. Et ça, c'est fantastique.
Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Elvin nous le dit dans un message. J'ai toujours été très dubitatif des mouvements de foule liés au foot. Étant jeune en pleine guerre froide, j'étais stupéfait de voir ma ville en liesse pour avoir gagné la Coupe de France de foot, alors que la possibilité d'une guerre nucléaire me clouait d'angoisse. Si toutes ces foules se mobilisaient sur une cause, quelle énergie ce serait? Mais pour un ballon dans un filet, je n'arrive pas à comprendre.
C'est vrai que ça peut paraître contradictoire et un peu incongru. On peut aussi donner l'exemple de la Coupe du Monde de 98 où la France a gagné, où 1,5 million de personnes se sont retrouvées sur les Champs-Élysées. Il a fallu remonter à 1936 pour avoir un tel déploiement de la population française. Donc c'est vrai qu'entre l'un et l'autre, entre le Front Populaire ou la Libération de Paris et une Coupe du Monde de football, on peut se dire mais la chose est quand même bien dérisoire. Mais cependant elle existe et je crois qu'il faut la regarder comme un fait plus que avoir une critique radicale sans une proposition alternative à ces grands jeux là qui manifestement font leur succès.
On parlait Georges Vigalalo,
c'est la grande ambiguïté, si vous voulez. Le jeu, c'est à la fois dérisoire et en même temps c'est sérieux. Et l'humanité a besoin de jeu. Et quand on dit que c'est ridicule de voir quelqu'un qui place le ballon dans un filet de basket, moi je crois qu'on oublie que ça peut relever d'une esthétique extraordinaire. Ça peut relever également d'une excitation extraordinaire dans l'affrontement, dans la façon dont les gens s'impliquent. Vous voyez, il y a de l'art dans la pratique sportive. On peut pas oublier ça. Et en même temps, il y a l'ambiguïté, il y a de l'ombre, il y a du négatif, et il y a de la corruption, on peut pas l'oublier, mais il faut absolument prendre en compte les deux.
Ouais. La corruption, évidemment, illustrée par le phénomène du dopage. On va écouter l'extrait d'un film consacré à Lance Armstrong qui s'appelle The Program.
Une fiction si proche de la réalité, car la vie de Lance Armstrong aurait pu être un roman policier. Un visage taillé pour le cinéma. Le grand écran comme une évidence. 7 victoires dans le Tour de France, 7 victoires annulées. L'ascension implacable, puis la chute d'un héros devenu paria.
Je suis l'athlète le plus contrôlé de la planète.
Le film détaille le système de dopage le plus élaboré de l'histoire du sport et les mensonges de celui qui en fut l'organisateur, Lance Armstrong.
Je n'ai jamais été contrôlé positif à un produit améliorant les performances. Je n'ai jamais été contrôlé positif à un produit améliorant les performances. Action.
Armstrong a perdu presque tous ses titres. Il se bat aujourd'hui pour conserver une partie de sa fortune. La bagarre, toujours.
Voilà, cette question du dopage, le talon d'Achille absolu du sport, Georges Vigarello.
C'est le talon absolu du sport, le talon d'Achille absolu, je suis d'accord avec vous, tout simplement parce que ça met en jeu l'intégrité physique, ça on l'oublie. On a tendance à penser que le dopage, c'est améliorer au fond la performance sur un mode artificiel. Or, comme disait tout à l'heure Benjamin, l'artifice est partout, la question n'est pas là, c'est pas l'artifice. La question c'est le danger. Et c'est vrai que le danger est de plus en plus fort, pourquoi? Parce que les enjeux sont de toute façon de plus en plus forts. Regardez, on dit les gens se dopent parce qu'ils font un marathon, il faut résister. Mais ils se dopent aussi pour un 100 mètres. Les enjeux sont de plus en plus forts parce que les implications sont de plus en plus grandes, les financements sont de plus en plus lourds, les enjeux nationaux sont de plus en plus sensibles, etc. Donc la tentation du dopage est absolument présente et elle est présente parce qu'il y a, quoi qu'il en soit, et inévitablement, un phénomène de médicalisation de la performance sportive. Vous voyez, moi je suis pour la médicalisation. Mais la médicalisation, ça entraîne aussi l'idée qu'à partir d'un certain seuil, on peut peut-être utiliser un médicament plus fort. Vous voyez la nuance. Bon, mais on ne peut absolument pas oublier que c'est un phénomène profondément dangereux, et on ne peut absolument pas oublier qu'il y a des responsabilités. Et que ces responsabilités ne se limitent absolument pas aux fédérations sportives. Ce sont à mes yeux des responsabilités qui passent par la puissance publique. J'insiste beaucoup. Ça me paraît fondamental.
Thierry nous dit sur le site de l'émission « Je suis sportif depuis plus de 30 ans maintenant et pourquoi entraîner aujourd'hui les jeunes athlètes français et internationaux sur des bases de records anciens, vraisemblablement obtenus à partir du dopage ?» Benjamin Pichery, là il y a une vraie question
éthique. Je pense que, oui,
éthique,
c'est, effectivement c'est une vraie question éthique, mais je crois que le sport dans sa pratique compétitive s'inscrit dans une vision prométhéenne. Et donc il y a, dans la vision prométhéenne, on est tous un petit peu pétris de ce mythe-là. Je crois qu'il y a la notion du toujours plus qui doit advenir. Et je crois qu'il y a difficulté très certainement à se départir de cette idée-là. Quand vous parliez tout à l'heure des outrances financières qui concernent les organisations de compétitions sportives, il faut garder à l'esprit que le sport, c'est pratiquement 2% du PIB mondial. Donc c'est considérable. Alors on peut se poser la question, est-ce encore un jeu à 2% du PIB mondial? Non, ouais, ouais. Il y a trop d'interactions économiques derrière. Donc ça, c'est le monde tel qu'il est et tel qu'il avance. On peut effectivement regretter que le jeu disparaisse un tout petit peu, l'esprit du jeu, c'est-à-dire cet espace-temps dans lequel on simule quelque chose et qui n'engage pas la vie des individus, subsiste encore. La réalité est tout autre, je crois qu'il faut la prendre en compte, essayer de la réguler. Comme disait Georges tout à l'heure, il y a des questions de santé publique auxquelles il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il faut très certainement s'y attaquer. Mais il y a cette marche en avant là qui... Ouais.
Mais là, il y a quand même une question intéressante, celle que pose Thierry, parce qu'on considère du coup que le dopage devient la norme aussi.
Mais bien entendu,
oui, mais c'est l'artifice.
Mais il y a aussi quand même des décisions prises qui annulent certains records, nous l'oublions jamais.
Ouais.
Et en même temps, ce qui est demandé, c'est pas forcément d'arriver à réaliser la performance faite sous dopage, c'est réaliser la meilleure performance possible, qui n'est pas exactement la même chose. Et réaliser la même performance possible, j'y reviens, c'est pas forcément de la mécanique. C'est un travail sur soi, qui est un travail à la fois de type physiologique et de type psychologique, et qui ne mécanise pas nécessairement le corps, nous l'oublions jamais.
Ouais. Et il faut être un bon biologiste pour comprendre tout ça, Joël de René.
Oui. Alors, les sportifs de la glisse, en fait, ils sont dopés complètement à deux choses.
À l'air marin, première, vous allez nous dire.
Je vais vous dire, ils sont dopés à deux choses. Le premier, c'est le plaisir.
Oui,
le
voilà.
Plaisir total de faire ce qu'on fait avec la nature. Et le second, c'est la prise de risque. C'est tous les sports extrêmes.
Ah oui.
Descendre un couloir avec une avalanche qui risque de vous partir sur la tête, c'est un risque, mais c'est extrême de vaincre ce risque. Surfer des vagues de 4 mètres de haut, qu'elle peut vous faire rester dessous plus de 30 secondes, c'est-à-dire la période de la vague d'après qui vous fait rester encore 30 secondes sous l'eau, risque de vous noyer.
Oui.
Vaincre ça, c'est la possibilité, comme je disais tout à l'heure au début, du dépassement de soi. Donc, le plaisir, la prise de risque, l'amour du danger, en fait, le danger qui vous permet de vous dépasser vous-même et de vaincre ce danger. Alors, on revient à la biologie peut-être aussi un peu, et comme on est dans une émission scientifique, je voudrais parler aussi du numérique. Alors, la biologie nous a permis de mieux comprendre, alors je parle là des surfeurs, pourquoi on a des accidents à trois endroits, la nuque, les yeux, les oreilles et la tête. La nuque, parce qu'elle est trop cambrée, donc il faut faire extrêmement attention et faire des exercices pour l'éviter. Les yeux, parce que cataracte et ptérygion, peut-être un mot bizarre, mais les médecins savent de quoi je parle.
Mais pas nous,
le
alors c'est quoi?
Ptérygion, c'est une maladie des surfeurs. C'est-à-dire qu'à force de regarder le soleil plus l'eau salée, on a une espèce de d'inflammation qui pousse sur la conjonctive, qui peut aller malheureusement jusqu'à la pupille. Presque tous les surfeurs ont été opérés du ptérygion. Moi, j'ai été opéré deux fois. Les oreilles, un autre mot compliqué, c'est l'exostose. C'est-à-dire que le mélange d'eau, de sécheresse, plus d'eau, plus d'humidité, fait qu'on perd... Il y a un cartilage qui pousse dans l'oreille et on peut perdre l'audition. Donc, il faut se traiter. Et la tête. Moi, je porte un casque depuis 10 ans. Des casques, d'ailleurs, en matériaux nouveaux, très légers. 70% des accidents de surf viennent de la tête. Donc là, on est mieux informé à cause de la biologie. Et je termine sur le numérique. Je voudrais dire un petit mot de ce qu'on disait sur la passion de voir des sports collectifs ensemble et le plaisir qu'on a de voir des matchs de foot ou des matchs de rugby ensemble. La passion collective est très différente de celle qu'on éprouve sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'individualisme total. Sherry Turkle, qui est une grande écrivaine du MIT, une sociologue très connue, a écrit un bouquin dont j'aime beaucoup le titre et le livre. Il s'appelle « Alone Together », « Seul ensemble ». Les réseaux sociaux, on est seul ensemble. Alors que quand on participe ensemble à un match de foot, c'est l'émotion collective qui fait qu'on sait qu'on regarde à 30 000, 40 000, 2 millions, 10 millions de personnes ensemble la même chose. Et enfin, le numérique, pour nous, pour les sportifs de l'outdoor, qu'il s'agisse des sports de neige, des sports de glace ou des sports de l'eau, il est absolument essentiel maintenant, depuis une dizaine d'années, d'avoir ces prévisions incroyables qu'on appelle les prévis dans notre jargon. Pour ceux qui connaissent le windsurf, c'est Windguru. Et pour ceux qui connaissent le surf, c'est Magic Seaweed. On a 10 jours de prévision à l'avance avec la direction du vent, la direction du swell, la direction des vagues, la hauteur des vagues. Et donc, sans ce numérique-là, on ne pourrait pas se décider de prendre un week-end, de partir surfer ou faire du ski.
Voilà,
donc,
toujours l'arrivée des technologies et la façon effectivement
des technologies dans les sports.
Dont ça modifie la pratique aujourd'hui. On se retrouve dans un instant, dernière partie de ce dossier consacré au sport. I heard it pays in space. On your back again, to poison all your friends in
Imagine if you did it today. You could have gone beyond your means. Get old but live the dream.
J'ai 32 ans, monsieur Dunn. J'enterre une année de plus à récurer des piles d'assiettes et à servir des steaks. Et je fais ça depuis l'âge de 13 ans. Et si je vous ai bien compris, quand j'en aurai 37, peut-être que je saurai boxer. Et je dois dire qu'après avoir frappé cette fois pendant un mois sans aucun résultat, je suis en train de m'apercevoir que c'est pas vraiment gagné. À côté de ça, mon frère est en prison. Ma sœur a perdu son bébé, elle arnaque les services sociaux en leur faisant croire qu'elle l'élève. Mon père est décédé et ma mère pèse 120 kilos et des poussières. Alors si j'étais réaliste, je retournerai vivre là-bas. J'achèterai une caravane d'occasion, une friteuse, de la bière, du beurre de cacahuète. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'en boxant que je me sens bien. Alors si je suis trop vieille, j'aurai tout raté. Ça ira, je vous en ai assez dit.
Million Dollar Baby, Clint Eastwood évidemment, Georges Vigarello, le sport comme moyen de dépasser le plafond social aussi. Hein.
Oui, il y a mille choses à dire sur ce film qui est absolument magnifique. D'abord, c'est la présence de la femme. Le fait que le sport est de plus en plus, et heureusement,
incarné
par la femme, pratiqué dans des pratiques qui, il y a 30 ans, paraissaient inimaginables. Ça, c'est extrêmement important. Mm-hmm. La deuxième chose qui est très bien dite en quelques mots de cette femme, c'est la façon dont la pratique peut happer complètement quelqu'un, vous voyez. Un peu comme le jeu, si vous voulez. Ça peut totalement le prendre. Et bon, c'est respectable également, ce genre de choses. C'est à contrôler. La responsabilité de l'entraîneur est là. La responsabilité de l'institution aussi. Mais, il n'empêche que on peut comprendre cette façon de s'engager extrêmement liée à de l'histoire, à la fois personnelle, l'histoire sociale. L'histoire sociale, c'est le fait que, évidemment, la boxe, par exemple, est pratiquée aujourd'hui par ceux qui ont vraiment une revanche sociale à prendre, vous voyez. Mais ce qu'il faut dire aussi, et qui me paraît très important, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des sports très inégalement représentés. Par exemple, le football est complètement, apparaît comme le seul sport existant, si je vais un peu vite et si je schématise. Or là, il y a des modes de hiérarchisation sur lesquels il faut réfléchir quand même.
Benjamin Picherie, ce courriel de Jean-François, il nous dit sur un terrain de rugby, on ne déteste pas l'adversaire, au contraire, on le respecte, et heureusement, sinon il y aurait des morts chaque week-end sur les terrains. C'est en réponse à Joël de René, hein, ce qu'il nous disait tout à l'heure.
Et c'est bien de voir qu'il y a encore quelques pratiques avec une certaine éthique, mais est-ce que le rugby ne sera pas happé de la même façon par toutes les déviances possibles que l'on connaît aujourd'hui au football? Ça, c'est la question reste posée. Néanmoins, ça reste encore un terrain privilégié. Et à ce propos, je voudrais parler de Michel Serres qui traite de la question du rugby avec une grande intelligence comme à son habitude.
Bah, c'est le premier que vous avez interrogé d'ailleurs pour ses regards sur le sport. Il était joueur.
Il a joué, voilà.
Il a joué, oui. Et je lui tire un petit coup de chapeau. Déjà, c'est de m'avoir fait confiance dans la collection, comme étant le premier. Et je crois qu'il lui a donné tout son niveau d'excellence. En ce qui concerne le rugby, il décrit la scène du rugby comme une scène politique et religieuse où on y apprend le droit sans texte. Il dit que les joueurs de rugby, comme les spectateurs, sont en fait des étudiants en droit. Et je crois que la métaphore est intéressante, même si elle paraît drôle au premier abord. Elle est intéressante parce qu'effectivement, le respect de la règle, c'est sans texte que les choses se font. Et pas uniquement les acteurs sur le terrain, les spectateurs sont aussi là. Et il dit qu'il y a là tout ce qu'il faut apprendre des sciences humaines. Mmh. Dans un match de rugby, il y a matière à apprendre tout ce qui concerne les sciences humaines. Je crois que c'est une belle leçon du sport à donner.
Daniel nous dit sur la tête au carré à radiofrance.com, et la course d'orientation alors, sport à part entière, respectueux de l'environnement, loin de l'argent, sain, éducatif, on n'en parle jamais, et pourtant il est porteur de nombreuses valeurs tant recherchées aujourd'hui.
Mais c'est ce que nous disions tout à l'heure, il y a une diversité de pratiques qui passe par une hiérarchisation entre ces pratiques. Par exemple, les pratiques féminines sont moins prestigieuses que les pratiques masculines. Le Tour de France féminin a quasiment chaoté, si vous voulez. Bon, donc il y a vraiment une hiérarchisation qui est à prendre en compte et qui est intéressante, qui est liée à des problèmes aussi d'excitation que le spectacle peut provoquer, vous voyez, qui est liée en même temps à la façon dont le spectacle peut rapporter de l'argent, etc. C'est très compliqué, mais c'est extrêmement intéressant, ça passe aussi par le social.
Ouais, Gaël nous dit, il existe des sports ancestraux qui procurent du plaisir, le dépassement de soi, sans dopage et sans risque, le yoga, le tai chi, le qigong. Est-ce que vous n'avez pas une vision trop occidentale du sport, nous dit-il aujourd'hui, Benjamin Pichon?
Alors, peut-être, là, il y a encore une question géopolitique qui se pose sur le sport. Est-ce que le football n'est pas en train d'occidentaliser la planète ? L'Iran va bientôt jouer au football. On peut s'interroger sur ces questions-là. Effectivement, il y a peut-être un focus qui est fait sur les sports qui sont complètement exposés comme l'on sait aujourd'hui, alors qu'il en existe tellement d'autres. Il faut rappeler que la pratique du sport la plus conséquente n'est pas celle des quelques sportifs que l'on voit sur les écrans de télévision. Ce sont les gens qui pratiquent effectivement dans les bois, peut-être le dimanche matin ou sur leur bicyclette.
Allez, il y a des phénomènes culturels très forts, vous voyez. Ça a des spécificités qui font que l'espace reste complètement fermé et que la pratique ne s'exporte pas. Le cricket en est un exemple, mais certains sports américains en sont aussi des exemples. Et c'est très important
parce que
de
trop
voir.
Culturel, justement.
Oui, c'est ça. C'est très important de voir que certaines pratiques focalisent de façon extrême des modes de culture qui sont en définitive des cultures localisées.
Allez, dernière question. Très vite, comment concilier la nature et le recours aux matos de plus en plus polluants comme le carbone? Ça, c'est pour vous, Joël de René. Très, très vite.
Il y a des tas de projets maintenant. Il y a des planches biodégradables, des combinaisons biodégradables. Il y a une boîte qui s'appelle Notox, qui est une start-up française qui le fait. Donc, de plus en plus, on va s'orienter vers des planches qui disparaissent et des combis qui disparaissent avec le temps. Mais c'est un sport incroyablement polluant. Et il faut faire très attention à ce que tous ces sports de glisse qui utilisent des matériaux composites ne soient pas dangereux pour l'environnement.
Merci beaucoup. En tout cas, merci aux équipes de Bayonne, France Bleu, Pays Basque, justement, pour ce duplex. Et puis, ce coffret, donc, regard sur le sport, avec Alain Berthaud, André Consponville, Françoise Labridi, Michel Onfray, Pascal Pic, Michel Cher, Georges Vigarello. Évidemment, il y a énormément de gens que vous avez interrogés, donc, sur leur regard porté sur le sport. Et puis également,
je voudrais juste dire que les entretiens sont conduits par le philosophe François Livonnet.
mon complice dans
On le salue. Voilà. Et puis ce livre également aux éditions du Pommier, tout cela avec l'INSEP. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Fabrice Drouel.
Bonjour.
Bonjour. On parle de sport aujourd'hui dans Faire
Sensible.
Non,
je suis comme Churchill, ouais. Never sport.
Non, voilà. C'est ça, ouais.
Presque.
Juste le cigare.
Marie Bénard, l'affaire Marie Bénard, l'empoisonneuse du siècle, à ceci près qu'on l'a jamais prouvée, et donc elle a été acquittée. Et nous en parlerons avec notre invitée Madeleine Levaux-Fernandez, auteure d'un livre intitulé Marie Bénard, l'honneur d'une femme.
À tout à l'heure.